Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et ce soir, comme tous les lundis soirs, Cannabis Circus, émission du cirque.
Bonsoir à tous, vous êtes bien en direct sur Radio Canu. Donc ce soir, l'émission du Cirque Lyon, on va vous donner le sommaire. Je pense qu'il y en a un de vous deux qui a dû préparer ça.
Oui, j'arrive. Donc ce soir au sommaire, deux choses principales. Donc on va revenir sur le débat au Sénat. Et on va expliquer un peu...
Il y en a une louche.
Il y a une louche, oui. Ça a fait couler pas mal d'encre dans la presse, qui est pas mal. Et on va voir un peu ce qui s'est dit durant ces débats. Et le deuxième gros sujet, ça sera au sujet du Colorado, qui croule sous les bénéfices liés à la légalisation et qui sait plus quoi faire de l'argent, en fait. Et donc, voilà, on va parler de tout ça. Il y a pas mal d'articles aussi dans la presse à ce sujet. Voilà.
Voilà, puis moi je vous parlerai de quelques petites brèves aussi en Uruguay où les choses sont en train de bouger aussi avec le cannabis récréatif et aussi le cannabis thérapeutique. Voilà, il y a deux, trois petites saisies dont je vais vous parler. Deux, trois petites choses que j'ai chopées ça et là. Donc voilà, on va faire le tour de la situation. Donc on peut attaquer un petit peu par ce qui s'est passé au Sénat quand même.
On va mettre un peu de musique puis on revient.
Voilà, il nous a demandé une petite minute.
Alors parle plutôt de tes petites brèves. Vas-y. Ah,
t'es en train de me prendre de court du coup.
Des petites infos.
Ouais, alors En Espagne, il y a eu un hélicoptère en fait où ils ont. C'est un espèce de go fast du ciel. Il y a 900 kilos qui ont été saisis, en fait. C'est la Guardia Civile, la police espagnole, en fait, qui a pris en chasse un hélicoptère. Et il y aurait 900 kilos de hache. Donc l'Albanie, en fait, serait le premier producteur de hache en Europe, dit l'article. En fait, c'est sur Cannabis Info. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu marrant parce que ça se bagarre de partout, quoi. Et donc voilà. Ensuite, dans l'Ouest France, en fait, un truc un petit peu marrant, c'est le gérant d'un supermarché, c'est à Vannes. Il a affiché sur sa vitrine vente de drogue à prix discount. Avec une flèche, en fait, et montrant un endroit où apparemment, donc il a même mis une heure d'ouverture, il a mis 11 heures du matin. Et apparemment, où il est excédé par le fait qu'il y a des vendeurs de shit tout autour de son supermarché, puis lui, ça le dérange. Donc voilà, je connais pas les suites, quoi. Je sais pas s'il va être poursuivi ou pas, parce qu'il a marqué vente de drogue à prix discount, quoi. Donc c'est quand même totalement interdit, quoi. Mais c'est de la provocation. Dans la montagne aussi, il nous reparle de la culture du chanvre. Entre Allier et Loire, apparemment, il y aurait une renaissance du chanvre. Donc, faut savoir qu'en France, c'est le premier producteur de chanvre en Europe. Et dans la région, en fait, c'est une région où le chanvre.
La région Rhône-Alpes, tu veux dire ?
La région Rhône-Alpes, ouais, où le chanvre, il y en avait beaucoup avant les années 50, on va dire.
Il y a des villes chenèves, hein, de toute manière. Donc, la ville du chenevis.
Ouais. Et donc, c'est sous l'impulsion du syndicat des Monts de la Madeleine, où il y aurait 49 communes. Ils sont en train de développer de plus en plus le chanvre agricole.
Donc, alors, voilà. Il faut savoir que dans la région, il y a dans l'Isère, il y a le Trièves, qui est une région assez connue et réputée, je dirais même ancestralement, pour la culture du chanvre agricole.
Exact, ouais. Donc c'est une bonne chose en fait que le chanvre se redéveloppe parce que on peut le trouver vraiment partout et pour tout au long de la journée ça peut vous servir quoi. On le trouve aussi bien dans les huiles, dans les vêtements, comme isolant. Enfin voilà,
on peut faire plein de choses avec.
Sur cette antenne. Il y a la Dépêche aussi pour FR. En fait, il parle de cannabis et de vidéosurveillance. C'est dans l'Ariège, un bled qui s'appelle Pamiers. C'est responsable du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc ils ont décidé de mettre leur argent dans la surveillance, dans certains endroits précis pour éradiquer le trafic de cannabis. Donc voilà, ils mettent beaucoup de moyens là-dedans et ils espèrent qu'il n'y aura plus de cannabis dans leur petite ville. Donc voilà, encore certains qui rêvent. Ah, au lieu de mettre de l'argent dans la prévention, dans l'information, dans l'emploi pour tous, etc., on en met dans les vidéosurveillance. C'est bien. Et il y a le Dauphiné.com aussi qui relate une histoire. Salon de coiffure servait de distributeur de cannabis. Alors vous voyez, ça c'est le gros titre, quoi, on voit ça en gros. Et quand on lit l'article, en fait, le salon de coiffure, il ressort pas du tout, quoi. Apparemment, il a servi, mais ils savent pas vraiment. Il y a eu 120 gendarmes pour cette interpellation. Il y a eu 15 interpellations, ils ont saisi 1 kilo plus 100 000 euros, et il y a 4 personnes qui sont retrouvées en détention, et j'arrive plus à savoir dans quelle région c'est. En tout cas, c'était le Dauphiné.com. Moi, en fait, j'ai halluciné un petit peu sur le titre, et en lisant, en fait, je me suis aperçu que voilà, le mec du salon de coiffure, en gros, ils le mettent en avant. Et puis à la sortie, on ne sait pas du tout quel rôle il a pu jouer dans ce trafic-là. Et puis donc, comme je vous disais aussi, il y a l'Uruguay qui fait parler encore d'eux, parce que là, cette fois, c'est le cannabis thérapeutique, en fait, qu'ils ont légalisé. Et donc, en fait, les patients pourront acheter de l'herbe ou demander l'autorisation de la cultiver eux-mêmes. Et moi, ce que j'ai trouvé super bien, en fait, c'est que bon, l'usage médical et scientifique de la marijuana placé sous l'autorité du ministère de la Santé publique, les chercheurs pourront se fournir auprès des producteurs habilités par l'Institut de régulation et du contrôle du cannabis, créé fin 2013 après le vote de la loi de la légalisation du cannabis. Et le cannabis médical sera délivré sous ordonnance à des patients de plus de 18 ans et dont l'utilisateur ne pourra pas acquérir de marijuana à usage récréatif. Alors moi, j'ai trouvé ça super bien et super intelligent, quoi. Parce que quand on utilise un produit à but médical, il y a des doses, il y a des quantités, il y a des moments auxquels il faut les consommer. Donc si en plus vous en prenez au niveau récréatif, comme c'est la même chose, hein, puisque là on parle d'herbe, on parle directement de la plante. Donc du coup, c'est le même produit que celui que vous allez utiliser récréatif. Donc à partir du moment où vous en servez comme un médicament, eh ben, il y a toute une...
un protocole à suivre,
voilà,
pour
merci
consommer
bien.
Correctement,
voilà.
Dans un cadre thérapeutique.
Voilà. Donc je pense que voilà, pour moi ça a été, enfin je trouve que ça a été super bien réfléchi, cette affaire-là. Et ben on leur dit super bravo, quoi. Hein, de toute façon.
L'exemple de l'Uruguay est parfait. Hein.
Uruguay.
Et voilà, sur le thérapeutique, c'était bien sur la façon dont ils légalisent, et puis là sur de bien différencier chambre récréative du chambre thérapeutique, c'est important. Mm. Voilà, c'est pas les mêmes choses. C'est vrai qu'il y a des posologies, des protocoles, il y a des plantes différentes. Alors, je sais pas s'ils échangeront aussi avec
Israël.
Israël, qui leur donnerait des plantes de cannabis avec que du CBD, ce qui peut être intéressant pour certaines maladies. Voilà, donc non, l'Uruguay, un grand bravo. Ouais.
Ah, vraiment un grand bravo, et je pense qu'ils vont faire des pires en Amérique du Sud, quoi. Je pense pas que les autres pays vont les regarder faire sans bouger, quoi. Ça m'étonnerait, parce que de toute façon on voit déjà, on va en parler tout à l'heure sur les articles, ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que les autres États vont pas tarder à embrayer, quoi. Voilà mes petites brèves que je voulais vous placer. Voilà, c'est
bien
sûr.
Ben, un peu de musique et puis on revient tout de suite après pour la suite.
Et la nouveauté de la semaine est une vieillerie. Le label Discord a réédité les premiers enregistrements de Fugazi, date de 88. Un peu différent des versions des albums. Et ben voilà, vous verrez, ça a bien bien vieilli, je trouve. Oh.
C'est le retour sur Radio Canu, Cannabis Circus, l'émission du cirque, comme tous les lundis soirs de 21h-22h. Je vais laisser la parole à Jérôme qui va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine au Sénat, peut-être.
Oui, on va parler donc tout de suite de ce qui s'est passé au Sénat. Donc,
ah, on a plein d'articles qui en parlent.
Oui, ça a fait couler pas mal d'encre cette semaine, enfin la semaine dernière. Ouais. Dans la presse écrite, ça a parlé un peu de ça aussi à la télé, un peu à la radio.
Ouais.
Donc voilà, bon, de quoi il s'agissait concrètement? Eh bien, ça a commencé en fait l'année dernière.
Oui, ça fait un moment qu'elle l'a déposé, ce fameux texte de loi Esther Benbassa.
Voilà, donc l'année dernière, Esther Benbassa, qui est une sénatrice Europe Écologie Les Verts, a déposé au Sénat donc un projet de loi de légalisation du cannabis. Et à partir du mois de janvier, eh bien, c'était l'examen de la proposition de loi avec débat, notamment cette semaine, à partir de... ça a commencé mercredi dernier. Le cirque devait être entendu le 7 janvier.
Il a été entendu le 7 janvier.
Il avait été entendu, ah oui.
C'est juste avant qu'on apprenne tous ces événements le 7 janvier, malheureux. Mais il a été entendu, ouais, tout à fait. Ouais.
Donc voilà, donc bon, bah, y avait les débats cette semaine, c'était à partir de mercredi. Alors avant de rentrer un peu dans,
C'était mercredi, pas à partir de mercredi.
Mercredi dernier, oui.
Oui, mercredi, ça a duré 4 heures en tout et pour tout.
Oui, voilà. Bon, bah, c'était quand même à partir du mercredi. Même si ça n'a pas duré.
Et je ne sais même pas si les 4 heures ont été entièrement prises, il y a eu des interruptions.
En même temps, ça ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps. Il n'y avait que 36 sénateurs.
Oui.
Voilà, sur 600 et quelques, normalement, ils sont combien de sénateurs?
300 et quelques, c'est déjà pas mal.
Ah, d'accord.
Moi, non, mais il y avait quand même un texte qui était long et qui demandait quand même réflexion, quoi.
Oui, oui,
le
bien sûr.
Texte déposé par Esther Bessassa.
Bien sûr. Alors, juste avant, justement, comme je disais, avant de rentrer dans le dans les articles qui traitent des débats, on va peut-être pouvoir.
D'ailleurs, Ben Bassa, justement, sur les 36, elle a trouvé que c'était pas mal. Elle s'attendait même pas à avoir autant de monde.
Voilà. Oui, oui.
Comme quoi, il y en a qui savent toujours valoriser. Les...
T'es gentil, t'es gentil.
Mais c'est elle qui le dit, hein. C'est dans l'article de Mediapart. C'est
oui, oui, je sais. Non, mais je sais.
Mais un politique, franchement, c'est toujours content.
Je pense qu'on doit déplorer le fait que pour un sujet aussi majeur qui n'intéresse visiblement personne, il n'y ait que quand même 36 sénateurs.
Mais carrément.
Pour moi, ça me fait vraiment penser, ça me fait un peu penser au débat sur la loi de 70 où
tout
il était 7.
Ouais.
Dans l'hémicycle pour voter une loi, quoi, enfin, à minuit, un 31 décembre.
Ouais. Oui. Bon. Il paraît qu'elle est dite loi Mazo.
Oui.
Il faut vraiment être Mazo pour voter une telle loi un 31 décembre, quand même.
Ouais, enfin, les 7 qui étaient ne sont pas allés réveillonner. Bon, alors, on va faire ce qu'on doit faire, hein, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, avant de partir là-dessus, on va parler un petit peu, c'est un petit résumé de tout ça sur le site du Sénat, avec un article intitulé « Cannabis, faut-il autoriser un usage contrôlé ?» avec un petit récapitulatif. « Comprendre les enjeux ». Voilà, c'était pas mal, je trouve qu'ils mettent ça sur le site du Sénat. Donc, selon l'OFDT, il existerait en France 1 200 000 consommateurs réguliers de cannabis, d'après les données de 2011. Selon la MILT, donc la MILT estime que 41,5% des jeunes de 17 ans et 32,8% des adultes de 18 à 64 ans ont déjà expérimenté le cannabis. Ils se sont vite empressés d'ajouter qu'il y avait des effets sur la santé reconnus par l'OFDT, comme la diminution des capacités de mémorisation et d'apprentissage, une fatigue physique et intellectuelle, une humeur dépressive, mais aussi certains symptômes psychiatriques, des hallucinations ou des troubles anxieux. Voilà. Ensuite, un petit paragraphe sur les synthèses de connaissances au sujet du cannabis. Donc là, effectivement, on parle de la loi du 31 décembre 70, dite loi Mazo, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende la consommation de cannabis, considérée comme un produit stupéfiant, que la loi considère l'usager stupéfiant comme un individu malade et délinquant et le sanctionne lorsqu'il achète, consomme, détient, donne, revend, cultive, transporte ou conduit après consommation. Les peines pour trafic de cannabis peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison, 7,5 millions d'euros d'amende. Que la loi Mazo a été plusieurs fois renforcée. Alors là, on nous cite la loi de 2003, la loi Marilou, la loi de prévention de la délinquance de août 2007 avec l'instauration des peines planchers. Et on en oublie beaucoup, hein, des lois qui ont renforcé la loi de 70. Parce qu'on a eu beaucoup d'autres, hein, dans les années 80, normalement, notamment.
Après, c'était pas fondamentalement des lois,
C'est des compléments à la loi.
Des compléments à la loi, bon, bref.
C'est pas des circulaires.
Les lois sécuritaires, mais c'était, voilà.
Alors, donc.
Dernièrement. Bon.
Qu'est-ce que voulaient faire les sénateurs écologistes et pourquoi? Eh bien, eux, ce qu'ils disent, c'est que la législation française est une des législations européennes les plus répressives. Et que malgré tout ça, c'est un échec dans la mesure où elle n'a pas réussi à réfréner ni le trafic. Et donc les écolos souhaitent une réglementation de l'usage du cannabis qui permette de faire baisser la consommation tout en endiguant les risques engendrés. Ils proposaient aussi d'autoriser de manière encadrée la vente au détail aux personnes majeures et l'usage de plantes de cannabis et de produits dérivés issus de cultures et de pratiques culturales contrôlées. Et les caractéristiques des produits ainsi que leur teneur en principes actifs comme le THC seraient réglementées. Donc voilà un peu ce qu'ils proposaient. Donc concrètement, dans la loi, ça se passait comme ça. Ils auraient complété le code de la santé publique, notamment le premier article,
en autorisant l'usage non thérapeutique de plantes de cannabis et de produits contenant du cannabis répondant à des caractéristiques définies par décret et dont la teneur en THC est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, en encadrant la culture domestique des plants de cannabis, donc c'est plutôt l'autoproduction ça, et en la soumettant à une autorisation et un contrôle visant à assurer la qualité des récoltes, en soumettant une autorisation et un contrôle de la fabrication des produits contenant du cannabis, en encadrant la vente au détail de l'usage et l'usage du cannabis, et de porter à 3 contre 1 actuellement le nombre de séances annuelles consacrées à une information sur les conséquences de la consommation de drogue sur la santé dans les collèges et dans les lycées. Et enfin, un gage financier en soulignant que l'application du dispositif pourrait créer de nouvelles ressources fiscales. Voilà un peu ce qui était dans le projet de loi.
Voilà. Ce qui était intéressant,
oh bah oui.
De rien.
Carrément. Hein. Pour une première proposition de loi, c'est même fantastique.
Hein. Oui, oui. Donc on remercie le groupe Écolo qui a laissé quand même son temps de parole pour ça au Sénat.
Et on remercie Esther Benbassa qui, en plus de ça, n'est pas engagée uniquement sur ce thème social, polémique. Elle est aussi engagée sur d'autres thématiques tout aussi polémiques et où elle se ramasse pas mal. Mais bon, Madame Benbassa, elle n'a pas vocation à faire carrière au Sénat ou dans la politique. Mmh. Donc elle n'a rien à gagner, rien à perdre. Et voilà, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qui s'est dit durant les débats ce mercredi pendant 4 heures ?
Voilà.
Voilà. Alors, plusieurs articles. Un article de Michel Henry la veille, en fait. Un article de Mediapart, le 5 février. Un autre article dans Les Inrocs, pas mal non plus. Cannabis, débat fumé au Sénat. Et un petit commentaire de Jean-Pierre aussi, que j'ai mis accessoirement. Puis un article un peu transversal, mais qui s'en rapproche. C'est dans Metro News, une infirmière qui a écrit un article sur le cannabis thérapeutique, c'est intéressant. Jean-François Hauteville, qui est infirmier addictologue, il va de son petit point de vue. Voilà, j'ai pas, même pas mis tous les articles qui en ont parlé, j'ai pris les principaux et plus complets. Donc, on va commencer peut-être par l'article de Michel Henry qui parlait de tout ça la veille. Hein. Et déjà, il commençait son article en disant « Sans illusion sur ses chances de succès, mais avec l'espoir de secouer le cocotier, donc, Madame Benbassa défend, ou défendra, parce que c'était le 3 quand il a écrit, défend ce mercredi devant la Haute Assemblée, donc, une proposition de loi visant la vente au détail de cannabis via un monopole confié à l'administration. Son idée est bien légaliser le commerce à usage récréatif avec un réseau de débitants sur le modèle du tabac, tout en interdisant la publicité et la vente aux mineurs. » Voilà. Je ne vais pas non plus lire tout l'article, on va peut-être s'attarder un petit peu déjà sur les points de vue ou les observations des différents sénateurs. Je ne sais pas si vous en avez trouvé quelques-unes qui vous paraissent importantes ou intéressantes. On est en 2014, mais on lit quand même toujours des trucs assez énormes. 2015, oui, c'est vrai, c'est pas longtemps. Ouais.
Bonne année.
Bon, voilà, c'était un peu l'article. C'est un peu l'article de Michel Henry, c'est de reprendre les différents.
Ouais, mais c'est marrant en fait, parce qu'en fait, il prend un peu tous les avis, puis ils montrent qu'il y a un débat pour savoir comment il faut faire, et ils reconnaissent même des gens à l'UMP, a priori, que dans les quartiers, nous avons collectivement fermé les yeux sur l'économie parallèle qui s'est développée, donc qui dit on a laissé faire, on est tous responsables, et derrière, il dit si on légalise tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura plus rien qui contrôlera ces quartiers, parce que mine de rien, la distribution de chanvre par les caïds, ils font en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans le quartier, parce que les problèmes, ça ramène la police.
Ouais. Alors, ils ne sont pas non plus tous d'accord sur comment on doit changer la loi. Il y a une élue PCF, là, Laurence Cohen, qui, elle, dit qu'il vaudrait mieux dépénaliser.
Voilà, donc, au moins dans un premier temps, c'est un peu le débat justement auquel j'arrivais. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dépénalise d'abord parce que c'est une absurdité de mettre ces gens en prison parce qu'ils n'ont rien à y faire. C'est là qu'ils rencontrent le grand banditisme, au contraire, ça fait que renforcer. Donc vraiment à aller vers une dépénalisation et peut-être dans un deuxième temps une légalisation. Alors que pour moi c'est absurde, ça continue d'entretenir les mafias, ce qui est une très mauvaise chose.
Oui, après on n'est pas persuadé non plus que tous maîtrisent établissent vraiment une différence dans leur esprit entre légalisation et dépénalisation. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Pour beaucoup, c'est tout pareil, en fait. Légalisation, dépénalisation, libéralisation, alors que c'est pas la même chose.
Oui, mais là, il parle en fonction de ce que fait Ben Bassa, donc...
Oui, bien sûr, mais...
Par rapport au texte qui est présenté par les Verts.
Je suis pas certain que parmi les sénateurs, il y en a qui aient compris que ce soit pas une dépénalisation, en fait.
Ouais, moi, je suis pas certain qu'ils n'aient pas tous compris, quoi.
D'accord, bon, bah, si tu veux. Si tu veux. Tu verras pourquoi je dis ça, en fait. On va reparler. Donc voilà, ça, c'était le 3. Je vous propose de passer aux articles d'après. Donc, par exemple, Mediapart, qui est un article du 5. Donc, là, on a des propos de sénateurs durant les débats. Alors, d'abord, Madame Ben Bassa a ouvert la séance en disant ceci, je vous le lis, c'est intéressant. L'initiative qui nous vaut d'ouvrir ici un débat n'est pas sortie de la tête embrumée ou enfumée d'une écologiste présumée amatrice de joint, comme le voudraient certains clichés. Elle est le fruit d'un long cheminement. Nous avons choisi, nous, écologistes, de regarder le problème en face. Les Françaises et Français ont eux-mêmes brisé le tabou que certains veulent maintenir et ils s'interrogent. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer à nouveau dans les explications. Alors, il y avait Jean Desessard, qui est aussi un sénateur Europe Écologie Les Verts, qui est le rapporteur de la commission des affaires sociales et qui, lui, a enfoncé le clou en soulignant l'échec de la politique répressif de l'État en la matière. Il s'interroge et il dit comme ça: interrogeons-nous sur le fait que l'on a la répression la plus grave, qu'on a des mafias et que pourtant on a la plus grande consommation de cannabis en Europe. Voilà. Certains d'entre nous estiment que la prévention est préférable à la légalisation, qui enverrait un mauvais signal à nos citoyens. Voilà ce qu'avait par exemple expliqué le rapporteur de la commission et que son président et médecin de profession Alain Milon, de l'UMP,
Milon,
avait lui estimé qu'un assouplissement du cadre légal paraîtrait contradictoire avec le message de prévention et rendrait tout retour en arrière particulièrement difficile.
Et Milon.
Voilà. Mais à la limite, c'est pas le plus grave qu'on entende ça. Bon, c'est l'UMP. Plus ennuyeux, je trouve, c'est les propos de Pascal Boitard, qui est venu au nom du gouvernement, qui est la secrétaire d'État chargée des droits des femmes, et qui a dit voilà, les solutions proposées sont possiblement contre-productives. Voilà. Ne prenons pas le risque qu'une libéralisation, voilà pourquoi je disais ça, qu'une libéralisation entraîne une hausse de la consommation. Le projet de loi des Verts, c'est pas un projet de libéralisation. On est bien d'accord.
C'est une légalisation contrôlée.
Voilà. C'est une légalisation contrôlée.
Alors, ensuite, elle explique qu'encadrer la vente de cannabis pour lutter contre les trafics ne va pas de soi, puisqu'il existe, par exemple, une contrebande de cigarettes, produit pourtant légal. Et que du coup, c'est légal et qu'il y a quand même de la contrebande, on va pas légaliser un produit, parce que même en le légalisant, il y aurait toujours du trafic. Voilà. Alors après, s'agissant des politiques de légalisation menées en Uruguay aux États-Unis, Madame Boitard s'est dit intéressée à en débattre, tout en précisant qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. Visiblement, elle n'a pas trop lu non plus, j'ai l'impression, les différents articles, et notamment pas les articles dont on va parler tout à l'heure.
Puis il pourrait peut-être se baser aussi sur ce qui se passe depuis des années en Hollande, au Portugal... Enfin, peut-être à des endroits où ça s'est détendu un petit peu sur le sujet, et puis on a un certain recul quand même maintenant, quoi.
Quand on lit ça, franchement, on a l'impression que c'est la première fois que dans un pays sur Terre, il y a une proposition de loi. légalisation du cannabis. On a l'impression que on est les premiers quand tu dis ça. J'aime bien les commentaires de Jean-Pierre. Alors je vais y venir en fait.
Ouais.
Alors maintenant, Laurence Cohen, qui se questionne, la légalisation est-elle vraiment la solution ? Alors, elle dit quand même, il est temps de modifier cette loi qui ne correspond plus aux réalités du terrain. Alors avant, là, c'était prononcé pour la dépénalisation qui maintient l'interdit, et en annonçant que de toute façon, son groupe allait s'abstenir.
La dépénalisation qui maintient l'interdit, c'est pareil, ça ne veut absolument rien dire, quoi. Enfin, quelqu'un qui...
Alors, ce que Jean-Pierre explique, parce que dans les articles de Mediapart ou d'autres, ils ne nous disent pas tout, mais dans les débats, c'était très clair que Laurence Cohen, donc cette sénatrice PC, en prenant la parole, elle s'est tout de suite mise à défendre la réduction des risques. Alors, elle défend la réduction des risques. Elle défend la dépénalisation de toutes les drogues, dont le cannabis. Mais il faut maintenir l'interdit. Bon. Ouais. Et donc, elle s'est abstenue.
Bah, il reste sous le grand frère russe, hein, il n'y a pas de problème. Puisque
donc,
là-bas,
je m'abstiens. Voilà.
Non, mais on a déjà discuté sur des stands avec des gens qui avaient cette philosophie-là, quoi. C'est spécial.
Alors après, le clou du spectacle dans les commentaires, il vient pas du PC, il vient pas du PS, pas exagéré, quoique. Il vient de David Rachline, qui est le plus jeune sénateur de France, en fait, qui est un sénateur Front National.
Il n'est pas le moins con.
Et donc, lui, il dit qu'en légalisant le cannabis, l'État deviendra un partenaire commercial. Bon. Que les Verts cèdent à la démagogie, qu'il faut combattre la drogue par une lutte sans relâche, et la dépénalisation n'arrange pas les problèmes, mais les accroît.
Et lui aussi parle de dépénalisation.
Oui, donc je pense qu'ils savent pas, en fait. Pour eux, c'est tout pareil. En fait.
C'est tout pareil.
Voilà, dépénalisation, légalisation, libéralisation, pour eux, c'est tout pareil. Du coup, je me demande même s'il y en a qui ont lu le projet de loi des Verts, en fait, sur les 36. Ça se trouve, il y en a très peu qui l'ont lu. Et ils parlent, voilà, c'est l'imagination. Ils pensent que s'il se passe ça, mais
c'est un coup de cliché.
C'est assez bizarre. Voilà un peu donc pour l'article de Mediapart et un article dans les Arocs aussi, débat fumeux au Sénat. Alors là, c'est pas mal aussi, c'est Alain, alors toujours le même Alain Milon, lui, il a dit, si nous faisions passer ce texte, nous aurons peut-être l'occasion, si nous sommes encore vivants d'ici là, de regretter d'avoir accepté votre proposition aujourd'hui, et donc c'est pourquoi nous voterons contre. Voilà ce qu'il avait dit. Il y en a un autre qui a répondu dans l'hémicycle, moi je ne fume pas, alors je serai encore là pour voir.
Ouais. Faut être con quand même. Bon. Et dire que c'est quand même des politiques, c'est quand même des gens qui sont censés, avoir un certain recul sur la vie, sur les choses, d'être relativement posé, réfléchi, et balancer des conneries pareilles, mon pauvre. Tiens, on va parler de Chevènement aussi, il nous en a sorti une encore. C'est quand même impressionnant, quoi.
Alors, oui. Alors après, sinon, toujours au niveau des arguments, là, ils n'ont pas plus développé dans les Inrocks, mais beaucoup de théories de l'escalade qui sont brandies, en fait.
Ça recommence, ça.
Donc,
tout à fait. Rachline. Les cocaïnomiens ont toujours commencé par le cannabis. Voilà, et ils ont commencé par la cigarette et surtout par l'alcool, quoi. Donc.
Nous, on a une réponse toute faite par rapport à ça, de toute façon. Quand on nous sort ça, on dit c'est simple, quoi. On estime quelques millions de consommateurs de cannabis. Si c'était le cas, il devrait avoir quelques millions de consommateurs d'héroïne, quoi. Puis c'est tout. Si l'un amène à l'autre, je veux dire, tous les consommateurs de cannabis devraient être des héroïnomanes. Et puis on voit très clairement que c'est carrément faux. Les Pays-Bas, actuellement, ça devrait être une grosse seringue, dans ce cas-là, quoi. Alors qu'il y a très peu de problèmes de consommation de drogue en Hollande. Quoi.
Beaucoup moins.
Quand on entend des conneries pareilles, ça fait quand même mal au cœur. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui connaissent rien du tout et qui vont croire les politiques. Parce que les politiques, c'est censé des gens intelligents, réfléchis. Donc voilà, tu vas les croire. Qui c'est qui va nous croire, nous? C'est malheureux qu'ils mentent à ce point-là, qu'ils trichent à ce point-là. Et en plus, il y en a certains, alors peut-être pas Milon là, mais il y en a certains, ils le font consciemment, quoi. Ils savent qu'ils racontent n'importe quoi. Mais c'est simplement parce que c'est pas le moment, parce que ça fait pas partie de la ligne politique de leur parti.
Je pense aussi parce que ça les intéresse pas. Hein.
Aussi, ça les intéresse pas, mais... Enfin bref, et donc qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Pierre ?
Alors Jean-Pierre, bon, bah, il reprenait un petit peu
Jean-Pierre Galland,
depuis son point de vue en fait les différentes interventions. Alors je viens de parler de Laurence Cohen. Il parle aussi de Madame Boitard. Donc il explique que, donc elle est secrétaire d'État chargée des droits des femmes, Madame Boitard, et elle remplaçait le gouvernement. Voilà. Ni la ministre de la Santé ni la ministre de la Mildécane ne se sont déplacés au Sénat. Donc Madame Boitard, nous dit Jean-Pierre, s'est emberlificotée les pinceaux, elle a reconnu que la prohibition était un échec, et elle a quand même tressé des lauriers à la présidente et à son plan 2013-2017, donc à la présidente de la Mildeca, avant d'annoncer qu'elle voterait contre la proposition de loi. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Je félicite un peu tout le monde, bravo, 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 et puis ben, en fait je vote contre, de toute façon. Voilà. Alors, il nous parle aussi de Jean Desessard, qui est le rapporteur là du un des sénateurs européens écologie Les Verts, qui d'après Jean-Pierre était pas mal non plus, mais quelle avalanche de chiffres et quelle précaution au pluriel pour bien signifier que le cannabis ne fait pas bon ménage avec la jeunesse. Voilà. Donc malgré tout ça, ça a pas forcément décoincé l'auditoire. Voilà. Je propose qu'on parte écouter un peu de musique, parce
carrément,
qu'on a parlé
ouais.
pas mal, et puis on revient tout de suite après pour poursuivre là-dessus. À tout de suite.
Et cette fois-ci, une vraie nouveauté, il s'agit de The LC Boy avec sa voix si particulière, accompagnée du badass Motherfucker. On écoute le morceau qui s'appelle The Rule.
Playing the fool for recognition, keeping with pride this crown of thorns, speaking loud, you're the prince of a lonely land, growing this mental disease to be part of the sea man. Even absurdity agrees you're playing fake. When you are wearing this suit, both paradox and nonsense. How could a square mind dare dancing wild as a Zulu, claiming fellow creatures are nothing? Misfit, the man on the moon. You can ever keep complaining. Trash on in vain. Thank you.
ça s'arrête tout net, ça reprend à donf sur Radio Canu, c'est toujours Cannabis Circus. Avant de rattaquer notre programme, là, on va vous parler de Technigro, qui aura lieu le 28-29 mars au Double Mix à Lyon.
À Villeurbanne.
Lyon-Villeurbanne, ouais. Donc, c'est la deuxième édition. On a déjà eu ça l'année dernière. Donc c'est un week-end avec Expo Vente Technigro, vous avez l'hydroponie, jardin vertical, voilà, donc c'est différents stands de gros shops, c'est ça, hein, de magasins. Et vous avez une partie bière artisanale, cave à bière, c'est une première en France, zone de restauration. Vous aurez des débats, des conférences tout au long du week-end. Et nous, on vous fait gagner une place ce soir. On vous fait gagner même deux places pour le week-end. Donc, on a une petite question. On vous la pose. Et puis, vous allez répondre par mail sur notre email du Cirque Lyon. Donc, c'est cirque-lyon@no-log. loge.org. Voilà, cirque-lyon@no-log.org.
Voilà, et tous les tirets sont les tirets du milieu.
Du 6.
Voilà.
Voilà. Et donc la question, elle était toute bête, je crois. C'est Isa qui nous l'a sortie. En quelle année le Cirque Lyon a vu le jour? Voilà. C'est ça la question.
Tout simplement.
Tout simplement. C'est la première question de ce lundi. On vous en fera une par lundi jusqu'au 28-29 mars. Et à chaque fois, vous aurez deux places à gagner pour le week-end. Faut savoir que le week-end, c'est 8 euros hein, la place. Donc, c'est un cadeau sympa, quoi. Il vous suffit de répondre à cette question, donc à notre boîte email, cirque-lyon@no-log.org. Voilà, ben on reprend le fil de notre émission et puis on vous parlera de ça tous les lundis.
Ouais.
Voilà.
On continue.
Ouais, juste pour finir, l'entrée un jour est à 5 euros.
Voilà. Ouais, et elle passe 8 euros pour les deux jours.
C'est celui-là qu'on fait gagner. Hein.
Très bien, parfait.
En avant. Allez, eh bien donc maintenant on va s'intéresser un petit peu à un article de Metro News de la semaine dernière, qui est un article du 4 février, donc le même jour où les sénateurs examinaient la proposition de loi visant à légaliser le cannabis. Donc Metro News faisait un petit article intitulé « Cannabis, les malades se passeraient bien de l'acheter sous le manteau », avec des guillemets, donc c'est les propos d'une infirmière, d'une ancienne infirmière, Martine Chachetel, voilà, qui dénonce dans un livre qui s'appelle « Cannabis sur ordonnance » aux éditions Albin Michel, qui est paru tout récemment, le mois dernier, qui en fait voilà, dénonce le fait qu'on a une médecine en France qui ne prend pas suffisamment en compte la douleur psychologique au moment où justement les sénateurs examinent cette proposition de loi qui prône un usage contrôlé du cannabis. Donc Martine Chachetel, elle explique que le cannabis donc a un intérêt thérapeutique. Et notamment, enfin, elle parle pas que du sativex en fait. Là, elle dit voilà, ça aiderait les malades qui ne peuvent pas utiliser le sativex, ce spray buccal à base de cannabinoïdes. Seules quelques personnes atteintes par la sclérose en plaques vont bientôt y avoir accès, alors que 17 pays d'Europe autorisent ce médicament depuis des années. Mais nous, on sait qu'on peut déjà l'avoir. On sait que c'est possible en fait d'avoir déjà du sativex. Donc voilà, c'est pas exact, mais bon, c'est depuis peu hein, que c'est possible d'en avoir en France.
Oui, mais voilà. que ce médicament-là
oui.
Pour que la sclérose en plaques
seulement, ouais.
Alors que,
comme elle dit, il y a de nombreux patients qui ont un traitement lourd, comme par exemple des chimiothérapies dans le cadre de traitement du cancer, ou qui prennent des trithérapies ou des multithérapies pour le VIH ou les hépatites. Et donc ces personnes, bah, y a parmi ces personnes là qui se tournent vers le cannabis parce que c'est la seule substance voilà, qui les soulage. Et elle dit, bah, par contre, en outre, si on avait un taux de THC encadré et faible, le cannabis, là, devient thérapeutique. On s'approche de l'ordonnance. Voilà. Donc le journaliste lui dit bah, ça permettrait donc en fait aux malades de pas tomber sous le coup de la loi. Elle dit bah, oui, effectivement. Ce serait donner la possibilité aux gens qui utilisent déjà du cannabis parce qu'ils sont malades ou dépressifs de le faire en toute légalité. Et donc elle dit voilà, je suis sûr qu'ils préféreraient se fournir en pharmacie plutôt que de l'acheter sous le manteau. Et là donc c'est intéressant parce que le journaliste lui dit bah, quelles sont les vertus thérapeutiques du cannabis. Et elle dit bah, il y a des vertus analgésiques, relaxantes, antivomitives, sédative, et si les malades prennent du cannabis, c'est parce qu'ils ne supportent pas la morphine, laquelle renforce les nausées. Pour rappel, jusqu'en 1953, le cannabis médical était vendu dans les herboristeries parce qu'il provoquait moins d'effets secondaires que l'opium. De plus, sous morphine, on est shooté, on ne vit plus, alors que le cannabis soigne la douleur morale, les angoisses, les cauchemars et la perte d'envie de vivre. Je ne dis pas que c'est la panacée. Comme pour la morphine, ça ne vaut pas pour tout le monde, mais on ne doit pas priver les malades qui souffrent d'un médicament qui fonctionne. Voilà, merci Madame Chachetel. Et donc un livre peut-être sans doute très intéressant, Cannabis sur ordonnance aux éditions Albin Michel, paru en janvier 2015.
Pour faire vite, je voulais dire, c'est pas si vieux, hein, 1953 quand
non,
même.
Non, c'est pas si vieux, ouais. C'est pas si vieux. Bref. Donc, vite, avant de s'intéresser rapidement, parce qu'on a déjà parlé beaucoup, on a déjà pris beaucoup de temps. C'est Jean-François Hauteville, qui est infirmier addictologue, qui publie sur le blog de France TV Info.fr son petit point de vue à propos du rejet de la proposition de loi d'Esther Benbassa. Donc bon, je vais pas vous refaire tout l'article. Alors lui, il estime, juste vite fait, hein, il estime que le coût en millions d'euros en France pour lutter contre le cannabis, c'est 676 millions d'euros.
Ouais,
dans
ouais.
un autre article, on voit 590.
C'était un petit peu plus que dans l'article de Desinrock, qui, eux, le système actuel, ils le mettaient à 568 millions dépensés chaque année.
Donc entre 568 et 676.
Mais là, c'est la répression sévère.
Ah oui, d'accord. Donc ils ont rajouté quelques millions, c'est
ils
ça.
Ont peut-être rajouté quelque chose que l'autre ne compte pas, va ouais, savoir. Ouais. Il, c'est bon. Plus sévère.
Alors, qu'est-ce qu'il en dit, monsieur Hauteville donc il dit qu'on vit dans un pays qui s'arc-boute sur des concepts dépassés, une désinformation du produit par les médias et certains scientifiques, bonjour professeur Constantin, par des politiciens conservateurs et ignorants sur ce sujet, incapables d'avancer également sur le cannabis thérapeutique. La France continue à refuser, et c'est peut-être ce qui est le plus insupportable, une alternative thérapeutique à ses concitoyens qui vont continuer à se gaver d'opiacés et autres molécules moins efficaces que le THC et présentant de graves et multiples effets secondaires. À quand un vrai débat sur cette thématique avec des personnes compétentes? Pour l'instant, un vrai et honteux scandale sanitaire. Voilà ce qu'ils ont dit.
Voilà.
C'est un addictologue, quand même. Ouais.
Tout à fait.
Alors maintenant, on va aller aux États-Unis, on va aller voir ce qui se passe.
Et si tu me permets pour ça, et pour faire cette transition, je
te permets.
L'article de Sud-Ouest... qui s'appelle « Légalisation du cannabis, le surprenant modèle du Colorado ».
Vas-y.
Mais c'est une journaliste qui a écrit ça le 5 février, et en fait elle a intelligemment fait le mélange entre les deux, puisqu'elle rappelle que depuis plus d'un an, l'État américain autorisait l'usage récréatif du cannabis, les résultats dépassent les attentes. En France, une loi dans ce sens était examinée au Sénat mercredi. On est presque un pays à la pointe.
Trop fort.
Et donc, pour la première fois, donc elle rappelle que grâce aux 11 élus écologiques, ils ont demandé à autoriser l'usage contrôlé du cannabis. Les débats donc ont duré 4 heures et se poursuivent. Voilà, mais si en France ça a un peu de chance d'être adopté, n'empêche que bah, c'est bien, ça permet de sortir du tabou et peut-être d'arriver un jour comme au Colorado. Un ouais. modèle en matière de légalisation maîtrisée du cannabis. Je n'arriverai pas à dire ça moi-même. Pour l'Uruguay, je serais d'accord, mais pour le Colorado, c'est quand même le libéralisme à tout craint et le grand n'importe quoi de ouais. ce qui va se faire, quoi.
Ouais, ouais. Oui, oui, oui.
De ce qui peut se faire. Du notre capitalisme.
Oui, oui, américain, quoi.
Donc je ne sais pas si c'est le modèle bah, maîtrisé.
En tout cas, ça génère des recettes et des taxes pour l'État, et beaucoup, en fait, même.
Beaucoup, beaucoup plus que prévu. Beaucoup ouais. trop, d'ailleurs, pour
c'est
eux.
Ça qui est...
enfin, ils ont prévu un budget, et ils ont des entrées, des sorties. Là, leurs entrées bah, dépassent largement les dépenses. Du coup. Et donc, ils sont obligés de rendre de l'argent à leurs citoyens.
Alors déjà, il faut. Alors à Denver, par exemple, les taxes atteignent 21,12% du prix de vente, ce qui est beaucoup, non?
Bah, 20%, c'est ce qu'on a. C'est oui, la TVA, hein, mon pote.
La TVA,
hein.
Oui.
Elle est à 20%, hein. Elle est plus à 18,6%. Hein. Je ne sais pas si tu
Y a des,
sa petite.
Ça dépend les tas de corps de métier.
Il y a des tas de produits.
Pour la classique, je parle. Ouais. C'est vrai que pour le pain, c'est à 5,5. Pour quelques produits alimentaires, c'est.
D'accord.
C'est à 5,5.
Donc bon,
mais
voilà.
Sinon, elle est à 20, globalement.
C'est à peu près comme chez nous. Et du coup, ça a rapporté beaucoup. Alors, ils en ont 30 millions de dollars d'impôts en trop pour l'instant. Les recettes sont si importantes, entre 60 et 100 millions d'euros selon les sources, que l'État va devoir en rendre une partie à ses contribuables. C'est fou, hein, quand même. Hein.
30 millions, quand même. Hein. 7,63 dollars par personne.
Ça, c'est sur quelle période, du coup?
Ça, c'est ce qu'ils ont réalisé sur 2014, je pense.
Oui, tout à fait.
Alors, j'ai lu aussi, je ne sais pas si c'est dans cet article ou un autre, que, en fait, parmi les taxes qu'ils ont récoltées, ils en ont déjà beaucoup reversé à des écoles, en fait.
Oui, tout à fait. Ça leur permet de financer leur système éducatif qui n'est pas financé autrement. Puisque l'État régalien n'assume pas cette fonction aux États-Unis. L'État, quoi. L'État fédéral n'assure que l'armée, la défense, la police, la FBI, et voilà, quelques agences comme ça, quelques trucs de réflexion.
Mais pas l'éducation.
Mais pas l'éducation.
D'accord.
Les crèches, pas les hôpitaux, comme maintenant il y a un petit peu de sécurité sociale. Voilà.
Alors, toujours dans cet article de Sud-Ouest, hein, je continue, c'est vrai qu'il est pas mal. C'est pour ça que je l'avais mis aussi. Hein. Si les taxes rapportent autant, c'est pourquoi?
Parce qu'il y a beaucoup de tourisme en plus.
Alors effectivement, la consommation augmente la consommation augmente fortement selon la journaliste. Il y a aussi des touristes, mais pas seulement. Donc il y a du monde qui vient fumer un joint, qui n'hésite pas à faire plusieurs heures de route depuis les États autour, hein, je pense.
Mais c'est clair.
Donc dans les rangs des locaux, donc des coloradiens, je sais pas comment on dit, ils sont entre 10 et 12% à consommer du cannabis au moins une fois par an, selon France Télévisions. En France Télévisions,
je te dis pas de la source.
je le dis, hein, quand même. Alors,
c'est pas beaucoup plus élevé qu'en France, hein, voire même moins.
Ouais. C'est ça que je voulais dire. Donc, dans l'État du Colorado, il y aurait 350 magasins accrédités en vendeurs. 350 magasins accrédités, en fait.
D'accord.
Dans le Colorado. Ce qui est. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tous les plants qui sont cultivés, donc il y a quand même un protocole qualité qui est respecté et qui est assez scrupuleux. Donc, tous les plants qui sont cultivés sont recensés dans un fichier central informatisé, en fait, pour qu'il y ait une traçabilité maximale du produit. Donc voilà, ils arrivent à faire ça.
C'est pas mal, ça.
C'est un peu. J'insiste un peu là-dessus, c'est pour faire un peu un contre-pied à tout ce qu'on a pu entendre là au Sénat, où t'as l'impression, quand tu écoutes les antis, que on va faire pousser du cannabis n'importe comment, que ça va sortir de nulle part, c'est risqué, on pourra plus revenir en arrière.
Comment en trouver dans les supermarchés,
c'est
etc.
n'importe quoi.
Etc. C'est bien sûr que c'est n'importe quoi.
On est capable
par
de
contre,
tracer
que,
tous les produits. Quoi.
Ce que j'attends avec impatience, c'est quand même d'autres stades que ce que ça peut rapporter financièrement. Quoi. Parce qu'en fait, une légalisation du cannabis, ça a des répercussions vraiment autres. Quoi,
ça
même
fait baisser la délinquance.
Alors justement,
baisser la délinquance, la violence, la violence sur les femmes, la délinquance automobile aussi. Et c'est là aussi où on les attend, nos politiques, quand il y aura ce genre de statistiques sur les pays qui ont légalisé ou les États qui ont légalisé, parce que je pense qu'on va être super surpris et nous c'est là-dessus en fait qu'on va pouvoir argumenter quoi.
Alors petit truc un peu, excuse-moi, je repars un peu sur le Colorado, il y a des petits trucs quand même un petit peu rigolos ou bizarres quoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le système bancaire américain refuse toujours pour l'instant l'argent du cannabis. Hein donc l'activité demeurant quand même illégale,
sur le plan fédéral, les achats dans les boutiques, en fait, peuvent se faire uniquement en liquide. Uniquement. Ce qui fait qu'il y a... Ça a certainement créé du boulot dans le transport de convoyeurs de fonds au Colorado. Mais alors, du coup, voilà, comment ils vont faire pour redistribuer l'argent aux gens du Colorado? Ils pourront pas leur faire un virement, pourront pas leur faire un chèque. Ils vont leur envoyer, ils vont faire quoi? Ils vont leur dire d'aller à la préfecture et de récupérer 7,63 € par pécor, quoi, qui va devoir venir chercher ces 7,63 €.
C'est spécial comme système, quand même.
C'est bizarre, quoi. Donc bon, ben c'est assez étonnant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a fait un peu tout le tour. L'article du plus du Nouvel Obs, c'était intéressant. On n'a pas eu trop le temps d'en parler, c'est dommage. Mais bon, en gros, ça revient un peu sur les mêmes considérations, avec une partie un peu plus historique. Donc je vous recommande d'aller lire cet article, qui était quand même intéressant. Leplus.nouvelobs.com. Le Colorado, trop riche à cause du cannabis. La France aurait tout intérêt à légaliser, par Pierre Rondeau, doctorant en économie. Voilà, c'est dommage, on n'a pas plus le temps d'en parler. On en parlera peut-être la semaine prochaine.
Moi, ouais, je pense que le Colorado, de toute façon, il va rester dans l'actualité pendant pas mal de temps, quoi, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire suite à leur changement de politique, c'est certain, quoi.
Oui.
Voilà, donc vous êtes sur Radio Canu, Cannabis Circus, ça se termine gentiment, on va donner nos coordonnées.
On va arrêter là-dessus, on ne pourra pas reprendre un autre article en entier, mais bon, on en parlera sans doute une autre fois, peut-être même la semaine prochaine. Donc pour finir, on va vous donner les coordonnées du cirque, le Cirque Lyon, cirque-lyon.fr, en ce qui concerne notre site internet, www.cirque-lyon.fr. Vous pouvez nous écrire au cirque par voie postale, Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne-Sedex. Vous pouvez nous appeler au 06 11 53 10 07. Nous envoyer un mail, on vous a donné l'adresse tout à l'heure, mais bon, je vais vous la redonner, cirque-lyon@no-log.org.
Et donc, pour gagner des places à Technigro, pardon, vous répondez à la question en quelle année le Cirque Lyon a pris naissance. Vous envoyez votre réponse à l'adresse email que Jérôme vient de vous donner, et puis on vous fera gagner des places pour ce salon fin mars.
Voilà, on verra si c'est les premières qui ont répondu qui gagnent les places, ou si on le fait par tirage au sort sans contrôle d'issue.
Voilà, non, ce sera nous les contrôleurs. On s'occupe de ça. Et puis juste vous rappeler, mais on aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois, on aura un stand d'information à Caluire le 7 mars lors d'une nuit reggae organisée par Breda Sound System.
Ça s'appelle Chalice Sound System, on en reparlera. Voilà, maintenant c'est Chasseur de Son, il est là aujourd'hui, il s'était perdu dans la forêt la semaine dernière, mais là il est revenu. Voilà. Allez, à ciao, à la semaine prochaine.
Allez,
au revoir.
Bonsoir.